Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. Europe 1. 10h, 11h. Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Bruno Patineau, bonjour Justine, bonjour. Et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Bonjour à tous, c'est Médiapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, émission que vous appréciez, 513 000 auditeurs en audience cumulée, plus 42% d'écoute depuis le début du confinement, il y a bientôt un mois. Médiapolis réalisé par Jean-Luc Arblade, préparé par Capucine Patouillet, animé en compagnie de Justine Holman et avec nous. En direct, mais en ligne, comme chacun d'entre nous, pour la 33e émission de cette 14e, je crois, saison, notre invité Bruno Patineau. Bruno Patineau, le grand spécialiste des médias de l'ère nouvelle du numérique, directeur éditorial d'Arte France, directeur de l'école de journalisme de Sciences Po et auteur d'un ouvrage qui a eu un très grand succès, qui continue à avoir un très grand succès, La civilisation du poisson rouge chez Grasset, paru en avril 2019. Nous l'avions d'ailleurs reçu à Médiapolis. Pour cette occasion, vous êtes en ligne, Bruno Patineau ?
Oui, bonjour Olivier, bonjour Catherine Ney. Bonjour.
Parfait. Alors, comme d'habitude, un cantelou pour commencer.
Édouard Philippe a-t-il parlé trop tôt de déconfinement ? Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Oui. Bonjour Madame Leclerc.
Vous en savez plus sur le déconfinement, monsieur Philippe ?
Alors, pas du tout. On réfléchit encore à cette déconfiture, ce déconfinement, pardon. Pour l'instant, on partirait plutôt sur un déconfinement par tranche.
Par tranche ?
Par tranche, pardon.
Oh là
pardon
là,
parce que, oui,
peur.
Parce que. Quoique par tranche, c'est pas idiot non plus.
Hein
les beaux pourraient sortir sans masque et les laids avec un masque. Bref, en tout cas, on réfléchit à un déconfinement plutôt par tranche d'âge. Voilà, les premiers à pouvoir sortir, donc on ferait par ordre, hein, pourraient donc être les 1 à 6 ans.
Hein ? Ils sortiraient tout seuls de 1 à 6 ans ?
Mais enfin. Alors. Oui, c'est en vous le disant que je me rends compte que c'est complètement con. Mais non, attendez. Soyez très honnête avec moi intellectuellement. J'ai dit qu'on réfléchissait. Hein, j'ai pas dit qu'on avait trouvé. Sinon, on peut faire aussi comme dans une idée qui me vient à l'instant, comme dans les avions. On laisse sortir les riches d'abord et ceux qui sont en business. Hein, et puis après le. Mais bon, vous allez voir que si on fait ça, on va encore être taxé de d'aimer les riches. Bon, bref, vous l'avez peut-être ressenti à travers mon propos, on est un peu paumé. Voilà, vaut mieux en tout cas rester chez soi pour l'instant.
C'était donc Nicolas Canteloup imitant Édouard Philippe ce lundi sur Europe 1. Le déconfinement, c'est le mot de la semaine. On n'a parlé que de ça, ce qui est probablement la chose la plus absurde, parce que quand les gens entendent parler des confinements, ils se disent « bon, bah ça va mieux » et ils risquent de se relâcher. Donc qu'on y réfléchisse très bien, qu'on en parle publiquement, je trouve ça absurde. Mais le président de la République, lui, est déjà en déconfinement, Catherine Ney, puisqu'il se promène à travers la France.
Oui, il se promène, mais c'est son rôle aussi. Mais le problème, c'est qu'il a compris qu'il valait mieux ne pas convoquer la presse parce qu'à chaque fois, ça lui retombe sur le nez et que les images lui sont défavorables. Comme quand il est allé en Seine-Saint-Denis visiter un hôpital où on l'a vu en dialogue masqué avec une aide-soignante qui, d'ailleurs, le dialogue n'apportait pas grand-chose parce que ce qu'elle disait, on le savait déjà. Mais quand il est sorti, il n'a pas pu empêcher des gens de venir le saluer, d'arriver vers lui. Et donc, on a l'impression qu'il disait aux gens de se confier en ne le respectant pas lui-même. Vous savez, c'est très difficile pour un président de sortir. Et donc, cette fois-ci, enfin, ces derniers temps, il est sorti sans la presse. Il est allé au Kremlin-Bicêtre le jeudi matin pour rencontrer l'équipe de cet hôpital, les chercheurs qui sont en train, peut-être, de trouver les professeurs, d'ailleurs, j'ai oublié leur nom, mais je vais vous le dire, Hermine et Rivaud, qui font des études sur un traitement hautement prometteur. Et puis après, il est allé rencontrer à Marseille le Didier Raoult, mais c'était de la politique. Il était seul. D'ailleurs, s'il avait rameuté la presse, ça lui serait retombé sur le nez. Et ce qu'il faisait, il faisait un tour des grands sorciers pour, eh bien, pour évidemment conforter sa décision s'il doit en prendre une et annoncer des choses lundi.
Mais même quand il n'y a pas d'image, il y a des images. C'est ça, dans le monde dans lequel on vit. C'est pas Bruno Patineau qui va me contredire sur ce point. Bruno Patineau, est-ce que c'est possible de... Vous êtes d'accord avec cette idée que d'accord, c'est pas la même chose si on convoque la presse, mais qu'il y a forcément toujours des images parce qu'il y a toujours un smartphone qui traîne ?
Maintenant, il y a toujours des images, oui, mais ça fait partie même du langage normal. Aujourd'hui, il semble plus possible d'informer sans image, mais une image n'est pas forcément crue. Donc, c'est pas forcément une bonne chose d'avoir une image, paradoxalement parlant.
D'accord. Et alors, Catherine Ney, j'ai pas compris si vous trouviez que le Raoult chez Raoul était une bonne chose ou une mauvaise chose de la part du président de la République.
Mais écoutez, c'est une bonne chose parce que c'est un choix politique. Il est allé voir Didier Raoult, qui est devenu, avec son hydrochloroquine, l'objet d'un culte, et on vénère ce grand savant qui incarne le bon sens de ceux d'en bas, qui croient en lui face à l'élite parisienne qui doute de son... Donc, et c'est vrai que son look de hippie le différencie des mandarins qui doutent de lui. Donc, il cultive ce style, et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon raillait les belles personnes qui ne croient pas en lui, comme si la vérité était toujours du côté du peuple, des Français, du bas, qui croient dans son traitement. Donc Macron devait absolument désamorcer ce clivage. Il est allé la même journée voir deux approches de traitement différents sans trancher, et il a bien fait de le faire.
Eh ben moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour une fois.
Je pense que... Non, ça ne serait pas la première fois.
Oui, mais enfin, ça se raréfie un peu. Non, oui. je crois que tout ce cirque est extrêmement néfaste parce qu'il provoque de la défiance. De la défiance à l'égard des médecins qui disent des choses contradictoires, de la défiance à l'égard des politiques, et que ce dont nous avons absolument besoin, je me tue à le répéter, particulièrement dans une pandémie, c'est d'établir de la confiance des citoyens envers les savants, les scientifiques et envers les autorités publiques, et réciproquement de la confiance des autorités publiques envers les citoyens. Et tout ce cinéma, et cinéma encore, c'est pas gentil pour le cinéma, tout ce cirque, c'est pas gentil pour le cirque, tout ce ramdam ne peut pas provoquer de la confiance, et au contraire, il provoque de la défiance. Mais bon, c'est un point de vue.
Mais un trop grand silence aussi... ferait le même résultat. Donc c'est très très difficile à gérer aujourd'hui cette crise.
Eh bien, je vous laisse le dernier mot.
Ça ne sera pas le dernier.
Non, sur ce sujet, le dernier mot sur cette controverse, chère Catherine. J'espère bien que ce ne sera pas le dernier.
Je plaisante.
D'où Jésus. Bon, écoutez, il y a une autre question très difficile, mais très intéressante du point de vue médiapolitique. C'est jusqu'à quel point les gouvernants doivent, mais j'allais même dire peuvent, dire la vérité. C'est une question fondamentale et on y revient après une courte pause avec Bruno Patino.
Médiapolis continue, à distance certes, mais avec toujours et comme chaque samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney. Jusqu'à 11h, ils sont en ligne avec Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte France et directeur de l'école de journalisme de Sciences Po.
Et nous disions que la question difficile, c'est jusqu'à quel point est-ce que le pouvoir politique peut tout dire. Alors, parfois, on lui a reproché, et non sans raison, me semble-t-il, de dire des choses inexactes. Par exemple, sur l'affaire des masques, où au lieu de dire que de toute façon, on ne pouvait pas les distribuer à tout le monde, au lieu de dire l'impossibilité, on l'a affirmé pendant un certain temps, on en reviendra d'ailleurs tout à l'heure, l'inutilité. Et du coup, l'opposition, y va fort là-dessus contre le pouvoir politique, les accusant plus ou moins explicitement de mensonges, explicitement quand c'est Marine Le Pen, quasi explicitement quand c'est Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, qui est intervenu, on l'entend, sur Europe 1 lundi.
En tout cas, le gouvernement, c'est clair, à partir de janvier, et des articles, des études de presse l'ont démontré, n'a pas dit la vérité. Je pense que le gouvernement aurait dû dire que nous ne disposions pas de ces masques plutôt que de propager des messages qui étaient erronés, de dire les masques sont inutiles. C'est faux. Les masques sont dangereux. Alors là, c'est une contre-vérité absolue. Et aujourd'hui, on voit ce revirement du discours. Mais dans une crise, il faut de la transparence.
Catherine Ney, vous êtes comme beaucoup de gens d'accord avec ce que dit Éric Ciotti ?
Oui, à quelques... Enfin, c'est-à-dire que les masques... Ce que je trouve extraordinaire, vous savez, c'est que le premier mort en France, c'est un Chinois qui est décédé le 25 janvier. Bon, oui. Il était arrivé à la Salpêtrière le 14 février, il est mort 10 jours plus tard. Eh bien, dès la fin du
janvier,
mois de janvier,
14 janvier.
Le 14 janvier, et il est oui. mort le 25 janvier. Oui. Eh bien, quelques jours plus tard, et ça j'avais le témoignage de pharmacie et de tout autre, les Français se ruaient dans les pharmacies pour avoir un masque. Bon, et avec des demandes, certains disaient, je prends, vous avez 100 masques, je les prends. Une espèce de gloutonnerie pour les masques, bien avant d'avoir posé les questions aux politiques. Oui, oui. Et c'est après que Madame Buzyn a commencé à dire que c'était des gestes inutiles, qu'il ne fallait pas acheter des masques. Mais l'épidémie n'avait pas encore flambé. À l'époque, elle avait raison, puisqu'il y avait pour l'instant un mort qui venait de Chine. Et que le deuxième mort, hein, il est arrivé... le 27 février, un mois plus tard, c'est un homme de 60 ans qui venait de l'Oise, vous savez, ce professeur qui est mort à la Salpêtrière. Donc jusqu'en fin février, le commun des mortels n'avait pas peur, peut-être que les politiques non plus, mais il n'empêche que les gens dévalisaient déjà les pharmacies, cherchaient des masques. C'est ça qui est extraordinaire, qu'il y avait une distorsion. Alors le peuple n'a pas toujours raison, mais il y avait peut-être le sentiment chez les Français quelque chose à arriver. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, alors est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de masques? Est-ce que, comme disait Monsieur Salomon, que si on porte des masques inutilement, s'ils sont mal utilisés, ça ne sert à rien et tout ça, peut-être savait-il que lui... sans savoir si l'épidémie allait flamber comme elle a flambé tout d'un coup. Hein. Voilà.
D'accord, et mais donc, ils ont quand même continué après à dire que les masques étaient inutiles avant de changer de ligne. C'est très difficile.
Oui, mais
Patino,
oui, et puis je vais vous dire, et n'oubliez pas que en janvier, début février, la France a envoyé avec l'Europe 9 pays à la Chine qui en avaient besoin des masques qui lui manquaient. À la Chine! Vous voyez, avec tout un tas de matériel qui après nous en manquait. Ça voulait dire aussi qu'il y avait une croyance que l'épidémie n'allait pas arriver jusqu'à nous.
Alors au-delà de la querelle sur les masques, Bruno Patino, quelles sont les difficultés particulières pour des autorités publiques, pour les gouvernants, de communiquer à l'ère des réseaux sociaux, des fake news, etc.
Oui, je pense qu'on peut vraiment élargir la question. Vous posez la question de la vérité. En fait, ce qui se passe, c'est une guerre des récits. Toute pandémie est l'occasion d'avoir une guerre de récits, une guerre de récits qui n'est pas seulement locale, mais qui peut être mondiale. Xavier Modu a montré qu'en 1832, avec le choléra en France, déjà, il y avait une très forte guerre des récits pour savoir si l'épidémie existait ou pas et quelle était son origine. À l'heure des réseaux sociaux, c'est devenu encore beaucoup plus compliqué puisque tous ces réseaux sociaux mélangent trois types de messages, on va dire l'information, la conversation et puis l'influence et au sein de l'influence souvent avec des fake news. Et donc penser à un moment donné que le gouvernement ou toute autre autorité peut être un narrateur unique à ce moment-là est une illusion. Ce qui est sûr, c'est que si la vérité n'est pas toujours favorisée dans les réseaux sociaux, l'omission, elle est toujours punie parce qu'elle donne naissance à des théories du complot ou en tout cas à la recherche d'un narrateur illusoire. Donc si vous voulez, peut-être dire la vérité d'une façon ou d'une autre, vous n'avez pas le choix parce que omettre ou donner l'impression d'omettre, c'est de toute façon à un moment ou à un autre se faire punir.
L'omission est toujours
punie. C'est très étonnant
puni,
en ce moment.
Oui.
Oui, je pense que c'est ce qu'on a appelé à un moment donné l'effet stressante. Vous savez, quand on retirait un contenu d'Internet et tout d'un coup, ce contenu, qu'il soit véridique ou pas, son absence donnait naissance à une espèce d'écho absolument monumental, l'absence étant d'une certaine façon plus... plus audible et plus forte.
Ça partait, je crois,
que
Barbara Streisand, c'est ça. Ça partait d'une photo.
C'est Barbara Streisand, oui, puisque
l'actrice.
Elle avait fait retirer à un moment donné quelque chose qui la concernait de l'internet, et du coup l'ensemble des conversations sur internet tournaient autour de ce qui avait été retiré.
Alors,
et donc
vous
quand
dites...
le gouvernement ou toute autorité donne l'impression de ne pas aborder un sujet, d'une certaine façon, c'est inscrire ce sujet à l'agenda des conversations.
Je voudrais vous poser une question sur l'inverse. c'est-à-dire le trop-plein. J'ai l'impression, mais peut-être que c'est une impression subjective, même si je sais qu'elle est quand même partagée largement, je crois, mais je voudrais l'avis du spécialiste que vous êtes, que les conférences de presse quotidiennes du directeur général de la Santé, l'excellent professeur Jérôme Salomon, avec ces chiffres interminables auxquels finalement on ne comprend plus rien, c'est du trop-plein d'informations et du coup ça ne marche pas. Et qu'il ferait mieux de faire des points peut-être pas tous les jours, mais tous les trois jours, et surtout beaucoup plus simple avec les faits essentiels et les graphes. Est-ce que c'est votre avis ?
Moi, je ne saurais pas donner de conseils à qui que ce soit. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'on est de toute façon dans un trop-plein de messages. Et donc, il y a, d'une façon ou d'une autre, un souhait, à un moment ou un autre, de gérer soit le rythme, soit le volume. Et ce qui me semble ici intéressant, c'est qu'on s'aperçoit justement que un des travaux journalistiques les plus importants du moment, qui vont bien au-delà du commentaire ou autre ou de l'analyse, c'est justement l'utilisation des graphes, des données, du data journalisme, de la visualisation de données pour essayer de donner à comprendre ce qui peut apparaître sinon comme trop foisonnant ou trop compliqué. Et quand vous regardez les grandes rédactions, alors en France vous avez évidemment Le Monde qui le fait, l'AFP, mais beaucoup d'autres, vous avez le Financial Times qui donne des courbes chaque matin qui font maintenant autorité dans l'ensemble de l'Europe, le New York Times qui a des graphes absolument phénoménaux sur toute la pandémie, d'une façon ou d'une autre, ceux qui émettent de l'information n'arrivaient plus à se faire entendre, et pour se faire comprendre, il fallait qu'ils puissent se faire voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donner à entendre ce qui se passe ne semble plus suffisant, il faut aussi qu'on puisse le voir, et pour le voir, rien de mieux qu'un graphe qui, petit à petit, semble, à un moment ou un autre, objectiver la situation dans laquelle on est.
Merci beaucoup. Voilà, vous vouliez pas répondre sur Salomon, mais en fait, vous avez répondu, puisque vous êtes d'accord avec moi qu'il ferait mieux de donner des graphes. Alors, merci. Donc, je vous force un peu dans vos retranchements, excusez-moi. On va voir que sur un certain nombre de sujets, mais sur celui qui a dominé les controverses depuis 15 jours, il y a eu des va-et-vient, mais pas seulement des politiques. C'est juste après une petite pause.
Olivier Duhamel et Catherine Ney, même de chez vous, vous continuez à analyser le monde des médias et de la politique dans Mediapolis. Ce samedi, vous êtes avec le directeur de l'école de journalisme de Sciences Po et directeur éditorial d'Arte France, Bruno Patino, qui a aussi publié aux éditions Grasset La civilisation du poisson rouge.
Et donc, puisque c'est une émission média-politique sur les médias en pandémie, il y a forcément, et c'est la logique du système, une polarisation des médias sur les ratés, sur ce qui fonctionne pas, sur les contradictions. Mais le plus souvent, ils cognent, ils attaquent, ils critiquent les politiques, les dirigeants, ce qui est absolument légitime. Mais quand c'est seulement les dirigeants, on peut trouver que c'est parfois un peu une distorsion. Et LCI, lundi soir, dans l'émission de 24 heures Pujadas, a fait un montage des propos contradictoires des politiques, mais pas seulement des politiques et des médecins. Écoutez, parce que Capucine Patouillet nous a récupéré ça.
Le port du masque en population générale n'est pas forcément une bonne idée.
Celles et ceux qui ne se voient pas recommander l'utilisation des masques ne doivent pas en porter.
Il ne faut pas mettre de masque quand on n'est pas professionnel de santé.
Je ne mets jamais un masque en ville. Il faut être exemplaire. Je ne mets pas un masque en ville.
Il y a peut-être un effet placebo si vous mettez un masque, mais c'est uniquement placebo.
S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ce serait préférable d'en mettre ?
Je ne pense pas que le coût-efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde.
Ça ne sert à rien d'aller se promener dans la rue avec un masque pour arrêter. Mais... quoi.
Vous avez entendu d'abord le Premier ministre le 2 avril et le ministre de la Santé le 19 mars et le directeur général de la Santé le 17 mars. Mais après, vous avez entendu d'excellents experts, Enrique Casalino du service des maladies infectieuses de Bichat, Gérald Kierzek, médecin urgentiste, Karine Lacombe, chef infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine, et enfin Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Donc la réalité des choses, c'est que vous avez eu un premier temps Et on peut le dire pour la pandémie elle-même. Vous avez eu un premier temps dans lequel on n'a pas vu venir la pandémie chez les experts et donc pas chez les politiques. Dans un deuxième temps, on n'a pas vu la nécessité ou estimé la nécessité de masques généralisés chez les experts. Et évidemment, les politiques se sont alignés dessus. Donc, ne cibler, ne taper que les politiques, quelque part, c'est injuste. Vous êtes d'accord avec ça, Catherine Ney, ou pas ?
Oui, parce que finalement, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et les plus grands chercheurs le disent aujourd'hui, et les plus grands médecins aussi, que ce Covid était quelque chose, il est très pervers, on ne sait même pas si ceux qui sont immunisés le sont pour longtemps, ou s'il ne va pas y avoir, on ne sait pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait confinement, dans quelques temps, moi, je pense que les Français, pour être ceux qui seraient autorisés à recommencer à travailler, voudront un masque. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que les maires, certains maires, voudraient les rendre obligatoires. Ce qui a d'ailleurs été cassé tout de suite, par exemple, à Sceaux, pour le maire de Sceaux, par le tribunal administratif sur une plainte des droits de l'homme. Bon, ça sera très difficile, mais je ne vois pas comment on peut dire aux gens « vous allez commencer à sortir sans masque ». Moi, je pense qu'il faudra prendre des masques.
Bruno Patino, comment sont reçus ces propos contradictoires ? Vous avez suivi le montage de son qui a été fait sur LCI. C'est quand même flagrant de voir que les gens ont d'abord dit « ah, puis nona ».
Oui, parce que la phrase la plus compliquée à dire, c'est celle qu'a soulignée Catherine Ney, c'est « je ne sais pas ». C'est-à-dire que quand vous êtes à un moment donné en responsabilité, que ce soit une responsabilité scientifique comme un médecin ou une responsabilité politique comme les politiques qu'on a entendues, la phrase la plus compliquée à dire, parce que sans doute perçue comme irrecevable, c'est « je ne sais pas ». Or, face à la nouveauté, puisqu'on parle là d'un mécanisme de quelque chose de relativement nouveau, un virus que personne ne connaît, c'est très compliqué d'affirmer « je ne sais pas ». Et d'avoir l'air de prendre ses responsabilités.
Sur ce point, si vous permettez, vous dites la phrase la plus dure à dire, c'est « je ne sais pas ». Moi, je pense que c'est indispensable, et de la part des médecins, et de la part et autres savants, et de la part des pouvoirs politiques, sur ce qu'ils ne savent pas, de dire « je ne sais pas ». Parce que c'est ça qui crédibilise le reste de ce qu'ils disent.
Oui, je pense que c'est ce qui est à la base de la confiance. Et là, d'une certaine façon aussi, ça montre la limite de l'exercice journalistique quand il se limite aux commentaires. Puisque finalement, faire un commentaire d'ignorance sur l'ignorance qu'ont les autorités politiques ou scientifiques, ça devient très compliqué et ça finit par un peu tourner en rond. C'est pour cela que je faisais allusion lors du moment précédent au recours aux graphiques, aux explications factuelles précises qui permettent à un moment de visualiser quelque chose au-delà des commentaires qui se font.
Ça veut dire que vous êtes contre les commentaires ?
Je suis absolument pas contre les commentaires, mais l'exercice journalistique en ce moment ne peut se limiter aux commentaires, et d'ailleurs il ne se limite pas aux commentaires. Quand vous regardez les études qui sont en train d'être faites par le Nieman Lab, par exemple, de Harvard ou d'autres, ils montrent que ce qui apparaît comme pour beaucoup de journalistes comme des temps extraordinaires, je mets des guillemets évidemment parce qu'ils sont dramatiquement extraordinaires, donne aussi l'occasion de réinventer une partie du métier, de retrouver le souffle des grands récits, des grands récits pouvant être des situations individuelles dramatiques, pour faire comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire que ce qui nous permet de faire comprendre ce qui nous arrive, c'est le récit, ce qui arrive à chacun d'entre nous, non seulement les gens qui sont dedans, mais surtout les gens qui sont dehors, les gens qui sont dans les services hospitaliers, les gens isolés, la solitude, tout ça se raconte et petit à petit donne la réalité de la situation. Et si vous croisez à cela effectivement l'explosion positive des graphiques, des analyses de data et autres, se réinvente tout un format journalistique aujourd'hui qui laisse effectivement, à mon avis, le commentaire un peu de côté.
Et un nouveau récit qui est en train de sortir, c'est le récit « Attention à la crise économique ». On y vient dans quelques secondes.
Pendant le confinement, Europe 1 vous accompagne, ne change pas son programme. Alors comme tous les samedis jusqu'à 11h, c'est Mediapolis. Aujourd'hui, Olivier Duhamel et Catherine Ney sont avec Bruno Patino, directeur éditorial d'Art et France et directeur de l'école de journalisme de Sciences Po.
Bruno Patino qui disait l'importance du récit, du storytelling, comme on dit, de l'histoire que l'on raconte. Eh bien, il y a une petite musique qui commence à émerger sur le thème « La crise sanitaire, d'accord, mais la crise économique pourrait être pire ». Écoutez Édouard Philippe lors du vote de l'état d'urgence sanitaire par le Sénat le 19 mars.
Cette crise sanitaire va imposer un coup d'arrêt puissant, massif, brutal à notre économie. Une transformation puissante, massive et brutale à nos habitudes collectives de vie. Et elle fait courir le risque d'un impact puissant, massif et brutal sur les structures collectives, pas simplement nationales, européennes, internationales, qui nous ont toujours accompagnés, en tout cas dans notre vie de femmes et d'hommes.
C'était il y a bientôt 3 semaines, et puis ces derniers jours, ce discours est de plus en plus relayé, mais nous allons avoir un chômage terrible, de la pauvreté, des morts à cause de la récession économique, et donc il faut en sortir, il faut la reprise économique. Simplement, la façon dont on raconte ça peut être parfois considérée comme... assez critiquable, parce qu'il y a presque un discours sous-jacent qui est ben, on n'a qu'à laisser mourir, en plus ce sont les plus vieux qui meurent, ce qu'il faut c'est reprendre les affaires et les profits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là-dessus de créer à nouveau une très grande coupure entre certaines élites et le peuple, Catherine Ney?
Bah, là, c'est votre interprétation qui n'est pas forcément la même. Il y a une vérité. Vous savez, pour l'instant, ce qui est facile pour un gouvernement, hein, c'est le confinement. On donne un ordre, on a peur, les gens restent chez eux, et puis il va bien falloir en sortir, parce que on parle de milliards comme si, franchement, on distribuait des bonbons. Je veux dire, l'Europe et tout ça, très bien. Mais je veux dire, il faut remettre un pays et des entreprises au travail. Et combien de temps bien cela va mettre pour que ce qui fait, par exemple, la richesse française, c'est le tourisme, les restaurants, tout ce goût de la vie. Combien de temps ça va prendre pour que tous ces gens qui ont eu un manque à gagner, qui ne seront sûrement pas remboursés autant qu'ils le veulent, combien de temps ça va faire? Combien de chômage ça va créer? Alors, gagner de l'argent, bien sûr, c'est pas bien, il y a des morts et tout ça. Mais c'est vrai qu'il va falloir peu à peu essayer de faire un demi-confinement. Je ne sais pas, il va falloir inventer, mais c'est évident qu'il va falloir regagner de l'argent.
Il va falloir, mais faire ça aujourd'hui, si ça provoquait aujourd'hui...
Faire ça aujourd'hui, on va pas le faire aujourd'hui. C'est impossible de le faire aujourd'hui.
Ah bon,
d'ailleurs, le confinement ne va pas. Quand est-ce qu'on peut on y verra quelques lueurs? Mais sûrement pas avant la mi-mai. Peut-être même au-delà, on n'en sait pas. Mais il faudra bien. Le problème, il va se poser. C'est pas quand même quelque chose d'affreux de parler d'argent, parce qu'on en a besoin.
Mais j'ai pas du tout dit que c'était ni pas bien de parler d'argent, ni qui pas bien de gagner de l'argent. J'ai juste dit que les voix qui s'élèvent en disant que aujourd'hui, le plus important ne serait plus la crise sanitaire, mais la crise économique, et qui voudrait donc qu'on déconfine de façon prématurée, c'est un discours qui pouvait être contre-productif. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Pas plus que ça, ne me faites pas dire des choses que je ne pense pas, vraiment. Bruno Patino, c'est toujours le problème de... Comment on s'exprime, parce que entre poser une vraie question et laisser entendre qu'on ne se préoccupe pas de la crise sanitaire, la marge est parfois étroite, non ?
Oui, mais moi je, comme vous le savez, cher Olivier Duhamel, moi je répugne à faire du commentaire justement. Oui. Donc j'ai pas forcément entendu ce que vous avez entendu dans les propos du Premier ministre. Après, si vous voulez, ça fait partie de l'exercice gouvernemental, j'imagine, de préparer les gens à la situation. Mais j'ai pas énormément de commentaires à faire là-dessus. De toute façon, en termes d'information, les deux actualités sont déjà traitées. Vous le voyez bien, c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les grands journaux imprimés, ils traitent de la crise sanitaire et du choc économique pratiquement dans le même temps. Et je pense qu'une analyse des journaux nous ferait passer, nous montrerait que un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre, comme étant les deux facettes d'une même réalité en réalité.
Ce que vous dites est certes, j'ai pas du tout voulu m'impliquer Édouard Philippe, hein, j'ai voulu juste donner l'archive du point de départ de la prise de conscience de la crise économique, c'est tout. Je pense qu'il y a un écart quand même entre la presse écrite et radio et plus encore télévision. À la télévision, sur les chaînes d'info continue, vous avez essentiellement des médecins, des urgentistes, des spécialistes de l'infection, des spécialistes des épidémies et très peu d'économistes qui interviennent. Il y a peut-être une différence.
Oui, parce que vous êtes au plus près de ce qui touche émotionnellement dans le présent les gens, le langage journalistique est celui de l'actualité immédiate, et l'actualité immédiate est évidemment est ce qu'il y a de plus dramatique, c'est-à-dire la situation sanitaire
alors il y a une évolution allô, vous m'entendez? Oui, vous êtes coupé. Par ailleurs, on a un regain de l'écoute de la télévision. Écoutez un reporter pour les télévisions belges et italiennes qui était l'invité de Valérie Expert sur Sud Radio le 16 mars.
Notons d'emblée que toutes les émissions se font sans public depuis plus de 3 semaines. Ça, c'est déjà impressionnant quand on voit des plateaux de télévision qui sont immenses et où la présentatrice se trouve en plein milieu avec ses caméramans qui sont équipés de masques et le peu de personnes qui travaillent sur place. Et puis surtout, c'est l'audience. C'est un boom d'audience. C'est du jamais vu. C'est très triste, entre guillemets. Mais c'est comme ça. Les Italiens ont besoin d'être informés, mais ils ont besoin également d'être divertis. Qu'ils ont délaissé, entre guillemets, leur divertissement dans leur talk show et se consacrent uniquement à l'information. Donc les talk shows ne changent pas, ils sont toujours à l'antenne, maintenus, mais il n'y a plus de divertissement, on ne parle que du coronavirus.
Oui, Catherine Ney, il y a eu un étonnant retour vers la télévision. La consommation de télévision a augmenté considérablement et beaucoup plus que, alors qu'on s'attendait le contraire, beaucoup plus que, par exemple, l'écoute en musique sur des plateformes auxquelles on est abonné. Ce retour vers la télévision, c'est une chose que vous avez constatée aussi?
Ben oui, pour y céder, moi aussi. D'ailleurs, on passe d'une chaîne à l'autre pour avoir des informations. Ça devient d'ailleurs un peu, on tourne en rond parce que si vous passez d'une chaîne à l'autre, vous voyez toujours les mêmes médecins qui se contredisent un peu, qui disent des choses. Mais on en a besoin. C'est devenu une sorte d'addiction. Et puis, on essaie aussi de voir un film un peu drôle. Et donc, on est fasciné. Ça, c'est vrai que la télévision est une compagne. Et puis, vous savez, tous ces gens qui sont, toutes ces personnes qui sont en famille. D'abord, ça calme les enfants, la télévision. Ça les occupe. Et puis, cette solitude. On n'est plus seul parce qu'il y a des gens qui nous parlent. Donc c'est le média qui accompagne le mieux. C'est une image dont on a besoin. Quand on est coupé de voir les autres, quand on ne se parle plus qu'au téléphone ou par WhatsApp, ceux qui savent le faire marcher pour les personnes âgées et tout ça. Mais la télévision, c'est une compagne. Donc c'est absolument normal que la télévision marche parce que la télévision, c'est des gens qui rentrent chez nous. On partage des choses, vous voyez.
Donc, Bruno Patino, l'ère de la télévision est loin d'être terminée. C'est plutôt, dans la pandémie, c'est plutôt le média privilégié et derrière la radio davantage que les réseaux sociaux, par exemple.
Eh bien, figurez-vous que oui, quand on regarde les études, alors, il y a, en France, par exemple, l'augmentation de la durée d'écoute moyenne de la télévision depuis la pandémie a progressé d'une heure par jour, ce qui est considérable. C'est-à-dire vous passez de 3h40 à 4h40. Donc ça, c'est quand même considérable. Alors, là où la surprise est assez grande, si vous voulez, c'est sur la répartition de l'augmentation de la durée d'écoute de la télévision par âge. Il y a une étude intéressante qui a été faite. Alors, hélas, elle porte sur les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais on peut considérer que ça sera relativement pareil chez nous pour montrer que pour une génération, toutes les générations ayant plus de temps disponible, si j'ose dire, modifient un peu leur comportement vis-à-vis des médias. Les plus anciens, les baby-boomers au-dessus de 57 ans, sont ceux qui modifient le moins leur attitude. Mais vous avez en particulier chez les 24-35 ans, mais aussi chez les 16-23 ans, une sorte de découverte de la télévision linéaire, puisque c'était les générations qui la regardaient le moins pour 35 à 45% d'entre eux ont augmenté considérablement leur consommation de télévision linéaire
et dans le même temps de la télévision streamée, c'est-à-dire des Netflix et Disney+. Et donc le fait de rester devant le poste devant le téléviseur, qui devenait un comportement de plus en plus âgé, au-delà de 55 ans en France, pendant cette pandémie-là, effectivement, trouve de nouvelles générations.
Vous vous pensez que c'est un phénomène qui va légèrement perdurer ou que c'est juste dû à la pandémie?
C'est la très grande question, et c'est la question que tout le monde se pose. D'abord, en termes de contenu, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après le boom inouï à la fois de la consommation des chaînes d'information, puisque BFM Télé a pratiquement doublé son audience, et LCI est arrivé au niveau où était BFM Télé l'année dernière, donc une consommation inouïe aussi des journaux télévisés qu'on disait réservés aux plus vieux et qui élargissent à la fois leur public en termes de nombre de personnes et en termes d'âge.
Et qui ont été rallongés d'ailleurs.
Petit à petit, on voit une consommation qui... Oui, les journaux télévisés ont été rallongés, durent 45 minutes, 50 minutes de temps en temps, et on voit petit à petit quand même que il y a une légère décroissance du recours à l'information, ce qui est pas illogique, c'est-à-dire une espèce de fatigue effectivement de tous ces chiffres en permanence qui arrivent, et la consommation de télévision ne décroît pas, mais elle se fait au profit de films ou de divertissement, où on y reviendra peut-être plus tard, de culture.
Et du après, culture, l'ensemble... de culture, Bruno Patino.
Oui, de culture.
L'heure avance,
aussi.
On n'y revient pas aussi. Plus tard, on y revient tout de suite. Écoutez Fabrice Lucchini.
J'entendais le mot inlassablement confinement, et ça m'a rappelé une fable de La Fontaine. Et cette fable parle d'un confinement d'un amateur de jardin et d'un ours, et qui n'en peuvent plus d'être seuls. Ils s'en peuvent plus, et d'ailleurs La Fontaine dit « La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. » Donc je vais faire des fables tous les 2-3 jours. C'est tout petit comme participation, mais je vais faire l'ours et l'amateur de jardin.
Et Fabrice Lucchini, qui depuis son domicile proposait une fable de La Fontaine, il en propose une tous les 3 jours sur son compte Instagram. Il y a une évolution aussi de la consommation culturelle, je crois. Catherine Ney ou Bruno Patino, qui veut intervenir?
Moi, je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas mesuré le degré de la consommation culturelle, parce que je vois qu'il est difficile en tout cas d'entrer dans une librairie si vous ne pouvez commander par Amazon. Mais moi, j'avais l'impression que c'était plus difficile. À Paris, on voit qu'il est très difficile de trouver des journaux parce que les kiosques sont fermés et que les seuls magasins qui vendent des journaux, ce sont les débits de tabac. En tous les cas, dans mon quartier, c'est comme ça. Et donc, je ne sais pas, j'ai pas d'avis, pas de statistiques à vous donner, mais ce que je vois, c'est que les artistes, en tous les cas, essaient d'attirer un public vers des choses culturelles. Vous voyez des artistes qui racontent des contes aux enfants, Josiane Balasco tous les jours, et ça a une grosse audience, elle fait un conte pour enfants, Fabrice Lucchini qui lit des fables de La Fontaine, enfin, donc peut-être donner à ceux qui les écoutent un goût de la lecture et de sortir un peu de la télévision.
Eh bien, pour quelqu'un qui n'a pas l'avis, vous avez un avis et des informations très utiles. Bruno Patino, il y a donc une sorte de demande culturelle supplémentaire?
Alors, oui, d'abord, il y a une demande, parce que quand même, dans la culture, elle provoque du lien, et d'une certaine façon aussi de la consolation. Pardon d'utiliser ce mot, mais je pense que c'est un mot important. On voit que la culture, elle est là pour provoquer une communion entre les gens et de la consolation dans ces temps difficiles. Maintenant, ce que décrit Catherine Ney, ce qui est tout à fait juste, c'est que pour la culture, comme pour tous les médias, cette pandémie accélère quelque chose qu'on pourrait appeler la plateformisation de leur expression.
Ça veut dire
donc
quoi?
Sur les médias, effectivement. La plateformisation, ça veut dire que, par exemple, dans l'univers de la télévision, de l'audiovisuel, les Netflix, Disney+, ces grandes plateformes supplantent aujourd'hui désormais beaucoup de chaînes de télévision classiques. Dans le commerce, la grande plateforme qui est Amazon a remplacé ou remplace encore plus vite que prévu. Les libraires ou autres qui sont tenus d'être fermés aujourd'hui, et comme les salles de concert, les théâtres et autres ont fermé, eh bien finalement, cette culture s'exprime aujourd'hui sur les plateformes. Alors pas seulement les plateformes mondiales, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc elle se réinvente aussi comme ça à distance. Et donc vous mentionniez tous ces artistes aujourd'hui qui de leur propre initiative. Vous avez l'ancien batteur de Téléphone Colin K avec Philippe Torreton qui aujourd'hui répète leur prochain spectacle de poésie et musique de jardin à jardin puisqu'ils se trouvent être voisins. Vous avez des concerts que le magazine Rolling Stone organise de grandes stars du rock qui depuis leur confinement prennent leur guitare et chantent. Vous savez que je suis directeur éditorial d'Arte sur Arte Concert chaque jour. Vous avez à la fois des concerts à la maison, des concerts sans pub. Une collection qui s'appelle United Restream qui met la techno et les musiques actuelles aussi sans public. Donc c'est tous les artistes aujourd'hui créent de nouvelles formes finalement. On peut parler aussi de Renaud Capuçon qui sur Twitter nous donne 5 à 7 minutes de concert par jour, du grand violoniste Isaac Perlman qui raconte une histoire drôle chaque jour suivi de 20 à 30 secondes de violon. Bref, d'accord. Il y a toute une expression culturelle aujourd'hui qui se réinvente, mais elle se réinvente au-delà et à travers les plateformes qui souvent sont des plateformes des grands réseaux sociaux mondiaux.
Eh ben, je voulais vous interroger sur Arte, donc vous y êtes allé de vous-même, c'est très bien. Moi, je me permets de dire un mot aussi, peut-être parce que parmi mes activités, je suis éditeur. Sur le fait que je trouve qu'il faudrait qu'on puisse assez rapidement rouvrir les librairies, parce qu'il est très possible de respecter strictement les distances, la distanciation sociale, les distances de sécurité, les mesures barrières à l'entrée des librairies, et qu'après tout, quand on parle des biens de consommation indispensables, certes, évidemment, le plus indispensable, c'est de se nourrir, mais se nourrir de livres, c'est aussi important. Et on pourrait prendre ça en compte. On va faire une dernière très courte pause et après je vais quitter un instant le monde des médias pour vous parler de ce qui se passe sur cette pandémie en Amérique latine.
L'auteur de La civilisation du poisson rouge aux éditions Grasset, Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte France et directeur de l'école de journalisme de Sciences Po, est votre invité Olivier Duhamel et Catherine Ney ce samedi dans Mediapolis.
Comment est-ce que les dirigeants latino-américains réagissent face au Covid-19? Cette semaine, Alice Baudry, directrice du marketing et de la communication à l'Institut Montaigne qui veille pour nous sur les médias internationaux, nous propose de lire la newsletter d'hier de Monocle. Monocle est un magazine sur les affaires mondiales et le mode de vie. Et dans le Monocle Minute, le journaliste Ed Stocker propose un tour d'horizon des pays d'Amérique latine. A priori, on serait tenté de diviser les réactions des chefs d'État latino-américains en deux catégories simples, les populistes et les autres. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée et le virus expose les approches radicalement différentes des gouvernements pour y faire face. Tout est question d'image aux conséquences politiques. Le président d'extrême droite brésilien, Jair Bolsonaro, l'auteur de l'article dit de droite, le président de droite brésilien, Jair Bolsonaro, continue d'être dans le déni, adoptant une vision ouvertement cynique de la distanciation sociale. 28% des Brésiliens ignorent actuellement les réglementations. Il courtise aussi les évangélistes en lançant les appels à la prière pour aider à débarrasser le pays de la maladie. Et pourtant, malgré un pic de cas dans cette semaine, un récent sondage montre que 59% des Brésiliens ne veulent pas que l'ancien militaire démissionne. Plus au nord, le président du Mexique, connu par son surnom AMLO, aurait dû garder une cote de popularité élevée, mais ça n'est plus le cas. En plus de dire aux Mexicains qu'ils devaient continuer de se prendre dans les bras, il a serré la main de la mère du célèbre trafiquant de drogue, Joaquín El Chapo Guzmán, lors d'une visite dans sa ville natale, avant de finalement céder et soutenir la distanciation sociale. Plus personne ne l'écoute, les Mexicains se tournent désormais vers des figures plus sûres, les experts de la santé. Le gouvernement populiste le plus identifié, en tout cas aux tendances populistes avec la vice-présidente Cristina de Kirchner, c'est l'Argentine. Elle a été relativement rapide à réagir et à prolonger son confinement jusqu'à la mi-avril. Et le président Alberto Fernandez a réussi à unir les différentes parties prenantes du pays et s'appuie sur son succès. On va voir si tout ça durera dans le temps. Au Chili, en revanche, qui n'est pas évoqué par l'article, la situation est de plus en plus clivée, dure, et on risque de voir revenir des violences policières et des manifestations de protestation. Pour terminer, comme il se doit, la chanson, une chanson de Bilderheim, « Faut que je me tire ailleurs », choisie par Jean-Luc Arblade, une chanson de 1980, et qu'il faut prendre comme un clin d'œil, et s'il vous plaît, s'il y en avait qui prenaient ça au premier degré, surtout pas comme une invitation à aller jogger toute la journée à 50 cm des passants. Chanson de Bilderheim, « Je me tire ailleurs ».
Ça baigne. Je suis sûr qu'on s'aimera toute la vie. De ce côté-là, pas de malaise, mais quand même par moments je vieillis. Faut qu'on se tire ailleurs. Faut qu'on se tire ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Faut qu'on se tire
ailleurs. C'est pas une vie d'être toujours enfermé. Merci beaucoup Bruno Patino, parce que dans notre enfermement, vous nous avez ouvert sur des horizons extrêmement intéressants. Merci évidemment à Jean-Luc Arblade, notre réalisateur, à Capucine Patouillet qui a préparé l'émission, à Julie Holman qui nous a accompagnés, et au chef d'antenne Michel Le Hénaff et Fabien Duchesne. Faites écouter l'émission, si ça n'a pas été le cas, par vos amis sur europe1.fr en replay. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans l'immédiat. Vous avez rendez-vous avec l'ami Mariotte que je salue.